La sixième heure venait juste de passer. Le soleil voilé pénétrait du côté de l'Occident et donc par de rares et étroites fenêtres à l'intérieur de l'église. Un fin ruban de lumière touchait encore le maître-autel dont le paliotto me sembla briller d'un éclat d'or. Les nefs latérales étaient baignées de pénombre. Près de la dernière chapelle avant l'autel, dans la nef de gauche, se dressait une mince colonne où se trouvait une vierge de pierre sculptée dans le style des modernes, au sourire ineffable, au ventre proéminent, l'enfant dans les bras, vêtu d'une robe gracieuse avec un léger corselet. Au pied de la Vierge, en prière, presque prostré, était un homme vêtu des habits de l'ordre clunisien. Nous nous approchâmes. L'homme, en entendant le bruit de nos pas, leva son visage. C'était un vieillard, au visage glabre, au crâne sans cheveux, avec de grands yeux bleus, une bouche fine et rouge, la peau blanche. À son crâne osseux, la peau adhérait comme il en serait d'une momie conservée dans du lait. Ses mains étaient blanches, aux doigts longs et fins. On eût dit une fillette fanée par une mort précoce. Il posa sur nous un regard d'abord égaré, comme si nous l'avions troublé dans une vision extatique, puis son visage s'illumina de joie.
« Guillaume ! » s'exclama-t-il. « Frère très cher !»
Il se leva avec peine et se porta à la rencontre de mon maître, l'étreignant et le baisant sur la bouche.
« Guillaume !»
répéta-t-il, et ses yeux se mouillèrent de larmes.
« Que de temps ! Mais je te reconnais encore. Que de temps, que d'événements, que d'épreuves le Seigneur nous a imposées !»
Il pleura. Guillaume lui rendit son étreinte, évidemment émue. Nous nous trouvions devant Hubertin de Casals. J'avais déjà entendu parler de lui et longuement avant même de venir en Italie et davantage encore en fréquentant les franciscains de la cour impériale. Quelqu'un m'avait même dit que le plus grand poète de ces temps-là, Dante Alighieri de Florence, mort depuis peu d'années, avait composé un poème que moi je ne puis lire car il était écrit dans le vulgaire toscan où l'on avait brassé et le ciel et la terre et dont de nombreux vers n'étaient rien autre qu'une paraphrase de passage écrit par Hubertin dans son « Arbor vitae crucifixe ». Et ce n'était pas là le seul mérite dont aurait pu se vanter cet homme célèbre. Mais pour permettre à mon lecteur de mieux saisir l'importance de cette rencontre, il faudra que je cherche à reconstruire les vicissitudes de ces années-là, telles que je les avais comprises et pendant mon court séjour en Italie centrale, d'après les paroles éparses de mon maître, et en écoutant les nombreux entretiens que Guillaume avait eus avec abbés et moines au cours de notre voyage. Mes maîtres de Melk m'avaient souvent dit qu'il est fort malaisé pour un nordique de se faire des idées claires sur les vicissitudes religieuses et politiques d'Italie. La péninsule, où la puissance du clergé étalait puissance et richesse plus que dans tout autre pays, avait donné naissance depuis deux siècles au moins à des mouvements d'hommes tendant à une vie plus pauvre, en polémique avec les prêtres corrompus, dont ils refusaient jusqu'au sacrement, se réunissant en communautés autonomes et en même temps détestés par les seigneurs, par l'Empire et par les magistratures citadines. Enfin était venu Saint François, et il avait diffusé l'amour de pauvreté qui ne contredisait pas les préceptes de l'Église, et par son œuvre l'Église avait accueilli leur rappel à la sévérité des mœurs de ces anciens mouvements, et les avait purifiés des éléments de désordre qui nichaient en eux. Il aurait dû s'en suivre une époque de douceur et de sainteté. Mais, comme l'ordre franciscain croissait et attirait à lui les hommes les meilleurs, il devint trop puissant et lié aux affaires terrestres. Des franciscains en grand nombre voulurent le ramener à la pureté d'autrefois. Chose fort ardue pour un ordre qui, au temps où j'étais à l'abbaye, comptait déjà plus de 30 000 membres répandus dans le monde entier. Mais c'est ainsi, et nombre de ses frères de Saint-François s'opposaient à la règle que l'ordre s'était donnée en alléguant que l'ordre avait désormais pris les façons de ses institutions ecclésiastiques pour la réforme desquelles il était né, et que cela s'était déjà passé au temps où François était en vie et que ses paroles et ses desseins avaient été trahis. Nombre d'entre eux redécouvrirent alors le livre d'un moine cistercien qui avait écrit au début du XIIe siècle de notre ère, appelé Joachim, et auquel on attribuait le don de prophétie. Il avait prévu l'avènement d'une ère nouvelle où l'Esprit de Christ, depuis longtemps corrompu par l'œuvre de ses faux apôtres, se serait de nouveau incarné sur la terre. Et il avait paru clair à tous qu'il parlait, sans le savoir, de l'ordre franciscain. De cela, beaucoup de franciscains s'étaient grandement réjouis, un peu trop, semble-t-il, au point qu'à la moitié du siècle, à Paris, les docteurs de la Sorbonne condamnèrent les propositions de cet abbé Joachim, et ils en agirent ainsi parce que dans l'université, les franciscains et les dominicains étaient en train de devenir trop populaires et écoutés et qu'on voulait les éliminer comme hérétiques. Ce qui finalement ne se produisit pas pour le plus grand bien de l'Église. Il fut ainsi loisible de divulguer les œuvres de Thomas d'Aquin et de Bonaventure de Bagnoréa qu'on ne pouvait taxer d'hérétisme, eux. Preuve qu'à Paris, aussi, on avait les idées confuses ou que quelqu'un voulait les confondre à des fins personnelles. Et c'est là le mal que fait au peuple chrétien l'hérésie, qui rend obscures les idées et pousse chacun à devenir inquisiteur pour son propre intérêt. Et puis ce que je verrais à l'abbaye me ferait penser que souvent ce sont les inquisiteurs qui créent les hérétiques. Non seulement pour les imaginer quand ils n'existent pas, mais parce qu'ils répriment avec une telle véhémence la vérole hérétique que nombreux sont ceux qui l'attrapent par haine des inquisiteurs. Vraiment, un cercle conçu par le démon, que Dieu nous en garde. Mais je parlais de l'hérésie, si jamais elle en a été une, joachimite. Et l'on vit en Toscane un franciscain, Gérard de Borgo San Donino, se faire le porte-voix des prédictions de Joachim et considérablement impressionner le milieu des frères mineurs. Ainsi, parmi eux, s'éleva une troupe de partisans de la règle ancienne, à telle enseigne que, quand le concile de Lyon, sauvant l'ordre franciscain contre qui voulait l'abolir, lui accorda la propriété de tous les biens dont il jouissait, selon qu'il était déjà légal pour les ordres les plus anciens, certains frères dans les marches se rebellèrent, car ils jugeaient qu'un franciscain ne devait rien posséder, ni personnellement, ni en tant que couvent, ni en tant qu'ordre. Il ne me semble pas que, se prêchant, ils étaient en contradiction avec l'Évangile, mais quand entre en jeu la possession des choses terrestres, il est difficile que les hommes raisonnent selon la justice. Et ainsi, on les mit en prison à vie. On me dit que des années plus tard, le nouveau général de l'ordre, Raymond Goffredi, aurait trouvé ses prisonniers à Ancône et, les libérant, leur dit « Dieu veuille que nous tous et l'ordre entier fussions flétris d'une pareille faute ». Il y avait parmi ces prisonniers libérés Ange Clarino, qui rencontra ensuite un frère de Provence, Pierre de Jean Olivier, lequel prêchait les prophéties de Joachim, et puis Hubertin de Casals, et de là naquit le mouvement des spirituels. En ces années, montait sur le trône de Saint-Pierre un très saint ermite, Pierre du Morone, qui régna sous le nom de Célestin V et qui fut accueilli avec soulagement par les spirituels. Il se montrera saint, avait-on dit, et observera les enseignements de Christ. Il mènera une vie angélique. Tremblez, prélats corrompus. Sans doute Célestin menait-il une vie trop angélique, ou bien les prélats autour de lui étaient-ils trop corrompus, ou encore n'arrivait-il pas à supporter la tension d'une guerre trop longue avec l'empereur et avec les autres rois d'Europe. Le fait est qu'il renonça à la tiare pontificale et se retira dans un ermitage. Mais dans la courte période de son règne, moins d'un an, les espérances des spirituels furent toutes réalisées, et Célestin fonda avec eux la communauté dite des Fratres et Pauperes Eremitae Domini Celestini. D'autre part, alors que le pape devait jouer le rôle de médiateur entre les plus puissants cardinaux de Rome, il y en eut certains comme un Colonna et un Orsini qui secrètement soutenaient les nouvelles tendances de pauvreté. Choix en vérité fort curieux pour des hommes immensément puissants qui vivaient dans leurs aises au milieu de richesses démesurées, et je n'ai jamais compris s'ils se servaient simplement des spirituels pour leurs fins politiques ou bien si, en quelque sorte, ils se considéraient justifiés dans leur vie charnelle du fait qu'ils soutenaient les tendances spirituelles. Et sans doute y avait-il du vrai dans les deux cas, pour le peu que je comprends des choses italiennes. Mais précisément, en guise d'exemple, Hubertin avait été accueilli comme aumônier du cardinal Orsini lorsque, devenu le plus écouté des spirituels, il courait le risque d'être accusé comme hérétique. Et le cardinal lui-même lui avait servi de bouclier en Avignon. Cependant, comme il arrive en de tels cas, d'un côté Ange et Hubertin prêchaient selon la doctrine, de l'autre de grandes masses de simples acceptaient cette prédication et se répandaient à travers le pays au-delà de tout contrôle. C'est ainsi que l'Italie fut envahie par ces fraticelles ou frères de la vie pauvre que beaucoup jugèrent dangereux. Il était désormais malaisé de distinguer les maîtres spirituels qui gardaient le contact avec les autorités ecclésiastiques et leurs partisans les plus simples, qui simplement se trouveraient dorénavant en dehors de l'ordre, demandant l'aumône et vivant au jour le jour du travail de leurs mains, sans s'approprier absolument rien. Ce sont là ceux que la rumeur publique appelait désormais « fraticelles », peu différents des béguins français qui s'inspiraient de Pierre de Jean Olivier. Célestin V fut remplacé par Boniface VIII, et ce pape se hâta de manifester une très faible indulgence pour spirituels et fraticelles en général. Tout juste dans les dernières années du siècle touchant à sa fin, il signa une bulle, Firma Cautela, dans laquelle il condamna en vrac, bisoche, quêteurs errants qui gravitaient à la limite extrême de l'ordre franciscain, et les spirituels mêmes, autrement dit, ceux qui se retranchaient de la vie de l'ordre pour s'adonner à la vie érémitique. Les spirituels tentèrent ensuite d'obtenir l'accord d'autres pontifes, comme Clément V, pour pouvoir se détacher de l'ordre d'une manière non violente, mais l'avènement de Jean XXII leur ôta toute espérance. En 1316, quand il fut élu, il fit mettre au fer Ange Clarino et les spirituels de Provence, et parmi ceux qui s'obstinèrent à mener leur vie en toute liberté, beaucoup furent brûlés. Jean avait cependant compris que pour détruire l'ivraie des fraticelles, il fallait condamner comme hérétique l'idée que Christ et les apôtres n'avaient jamais eu aucune propriété ni individuelle ni communautaire. Et comme précisément un an auparavant, le chapitre général des franciscains à Pérouse avait soutenu cette opinion, en condamnant les fraticelles, le pape condamnait l'ordre entier. Il paraîtrait étrange qu'un pape jugeât perverse l'idée que Christ fût pauvre, mais il était clair qu'il n'avait qu'un petit pas à faire pour soutenir, outre la pauvreté de Christ, la pauvreté de son Église, et une Église pauvre fut devenue faible en regard de l'empereur. Ainsi, depuis lors, de nombreux fraticelles qui ne savaient rien ni d'Empire ni de Pérouse moururent sur le bûcher. Je pensais à ces événements en observant un personnage légendaire comme Hubertin. Mon maître m'avait présenté et le vieux m'avait caressé une joue d'une main chaude, presque ardente. Au toucher de cette main, j'avais saisi bien des choses que j'avais entendues sur ce saint homme. Je comprenais le feu mystique qu'il avait dévoré dès sa jeunesse quand il avait imaginé être transformé en la pénitente Madeleine. Et les rapports intenses qu'il avait eus avec la sainte Angèle de Foligno, qu'il avait initiée à l'adoration de la croix. Je scrutais ce visage, aux linéaments délicats, comme ceux de la sainte avec laquelle il avait été en fraternel commerce de sens au plus haut point spiritualisé. Je devinais qu'il devait avoir su prendre des traits bien plus durs quand, en 1311, le concile de Vienne avait éliminé les supérieurs franciscains hostiles au spirituel, mais avait imposé à ceux-ci de vivre en paix au sein de l'ordre, et que ce champion du renoncement n'avait pas accepté le prudent compromis et s'était battu pour que fût constitué un ordre indépendant inspiré du maximum de rigueur. Hubertin avait alors perdu sa bataille parce qu'en ces années-là, Jean XXII se faisait l'apôtre d'une croisade contre les disciples de Pierre de Jean Olivier. Mais Hubertin n'avait pas hésité à défendre face au pape la mémoire de son ami, et le pape, subjugué par sa sainteté, n'avait pas osé le condamner, lui, même s'il avait ensuite condamné les autres. Mieux, en cette occasion, il lui avait offert une issue pour se sauver en le poussant à entrer dans l'ordre clunisien. Hubertin, habile à se gagner protection et alliance à la cour pontificale, lui apparemment si désarmé et fragile, avait bien accepté d'entrer dans le monastère de Gemblar, dans les Flandres, mais je crois qu'il n'y était jamais allé et qu'il était resté en Avignon sous les armes du cardinal Orsini pour défendre la cause des franciscains. Dans les derniers temps seulement, et les bruits qui couraient manquaient de précision, sa fortune à la cour avait décliné. Il avait dû s'éloigner d'Avignon tandis que le pape le faisait poursuivre comme hérétique « qui per mundum discurit vagabundus ». De lui, disait-on, on n'avait plus trace. Au cours de l'après-midi, j'avais appris, en suivant le dialogue entre Guillaume et l'abbé, qu'il était maintenant caché dans cette abbaye. Et à présent, je le voyais devant moi.
« Guillaume, disait-il, ils étaient à deux doigts de me tuer, tu sais. J'ai dû fuir à la faveur de la nuit. »
« Qui souhaitait ta mort ? Jean ?
Non, Jean ne m'a jamais aimé, mais il m'a toujours respecté. Au fond, c'est lui qui m'a offert un moyen d'échapper au procès, il y a 10 ans, en m'imposant d'entrer chez les bénédictins. »
« Et alors, qui te voulait du mal ?»
« Tous, la curie. Par deux fois, ils ont tenté de m'assassiner. Ils ont tenté de me réduire au silence. Tu sais ce qui s'est passé il y a 5 ans. 2 ans auparavant avaient été condamnés les Béguins de Narbonne et Béranger Talony, qui était l'un des juges pourtant, avait fait appel au pape. C'était des moments difficiles. Jean avait déjà émis 2 bulles contre les spirituels et... Michel de Cézanne en personne avait cédé. À propos, quand arrive-t-il ?
Il sera ici dans 2 jours.
Michel, je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Maintenant, il a reconnu ses torts. Il comprend ce que nous voulions. Le chapitre de Pérouse nous a donné raison. Mais alors, jusqu'en 1318, il a cédé au pape et lui a livré 5 spirituels de Provence qui se cabraient à l'idée de se soumettre. Brûlé, Guillaume. Oh, c'est horrible.
Il cacha sa tête dans ses mains. Mais que s'est-il passé exactement après l'appel de Talony ? Demanda Guillaume.
Jean devait rouvrir le débat, tu comprends ? Il le devait, car même dans la curie, il y avait des hommes pris de doute, même les franciscains de la curie. Pharisiens, sépulcres blanchis, prêts à se vendre pour une prébende, mais ils étaient pris de doute. C'est alors que Jean me demanda de coucher par écrit un mémoire sur la pauvreté. Ce fut une belle chose, Guillaume. Dieu pardonne mon orgueil.
Je l'ai lu. Michel me l'a montré.
Il y avait les indécis, même parmi les nôtres, le provincial d'Aquitaine, le cardinal de Saint-Vital, l'évêque de Caffa.
« Un imbécile, dit Guillaume.
Qu'il repose en paix. Voilà 2 ans qu'il s'est envolé vers Dieu.
Dieu n'a pas été à ce point miséricordieux. Ce fut une fausse nouvelle, arrivée de Constantinople. Il est encore parmi nous. On m'a dit qu'il fera partie de la légation. Que Dieu nous garde.
Mais... il est favorable au chapitre de Pérouse, dit Hubertin.
Précisément, il appartient à cette race d'hommes qui sont toujours les meilleurs champions de leur adversaire.
À vrai dire, dit Hubertin, naguère, il ne fut pas non plus très utile à la cause. Et puis, tout finit par un statu quo, mais au moins, on n'établit pas que l'idée était hérétique. Et cela fut important. C'est pour cette raison que les autres ne m'ont jamais pardonné. Ils ont cherché à me nuire par tous les moyens. Ils ont dit que j'étais à Sachsenhausen il y a 3 ans, quand Louis proclama Jean hérétique. Et pourtant, tout le monde savait qu'en juillet, j'étais en Avignon avec l'Orsini. Ils trouvèrent que des passages de la déclaration de l'empereur reflétaient mes idées. Quelle folie !
Point tant que cela, dit Guillaume. Les idées, je les lui avais données, moi, en les tirant de ta déclaration d'Avignon et de certaines pages d'Olivier.
« Toi ? »
s'exclama entre stupeur et joie Hubertin.
« Mais alors, tu me donnes raison ?»
Guillaume eut l'air embarrassé. « C'était de bonnes idées pour l'empereur à ce moment-là, » dit-il évasif. Hubertin le regarda avec méfiance.
« Ah, mais... toi, tu n'y crois pas vraiment, n'est-ce pas ?
Raconte encore, dit Guillaume. Raconte comment tu t'es sauvé de ces chiens.
Oh oui, des chiens, Guillaume. Des chiens enragés. Je me suis trouvé en devoir de combattre contre Bonagrazia lui-même, sais-tu ?
Mais Bonagrazia de Bergame est avec nous.
Maintenant,
après que je lui eus longuement parlé. Seulement après, il fut convaincu et protesta contre la « ad conditorem canonum ». Et le pape l'a emprisonné pendant une année. J'ai entendu dire qu'à présent, il est proche d'un de mes amis qui se trouve à la Curie, Guillaume d'Ockham.
Je l'ai peu connu. Je ne l'aime pas. Un homme sans ferveur, tout en tête, rien au cœur.
Mais c'est une belle tête.
Possible. Mais elle le conduira en enfer.
Alors je le reverrai là-bas et nous discuterons de logique.
Tais-toi, Guillaume,
dit Hubertin en souriant avec une intense affection.
Tu es meilleur que tes philosophes. Si seulement tu avais voulu...
Quoi ?
Quand nous nous sommes vus la dernière fois en Ombrie, tu te souviens ? Je venais tout juste d'être guéri de mes maux par l'intercession de cette femme merveilleuse. Claire de Montfaucon,
murmura-t-il, le visage radieux.
Claire, lorsque la nature féminine, si naturellement perverse, se sublime dans la sainteté, elle sait se faire alors le plus haut véhicule de la grâce. Tu sais combien ma vie a été inspirée par la chasteté la plus pure, Guillaume.
Convulsivement, il l'avait saisi par un bras.
Tu sais avec quel féroce, oui, c'est le mot exact, avec quelle féroce soif de pénitence j'ai tenté de mortifier en moi les palpitations de la chair pour accueillir transparent l'amour de Jésus crucifié. Néanmoins, trois femmes dans ma vie ont été pour moi trois messagères célestes, Angèle de Foligno, Marguerite de Città di Castello, qui prévit la fin de mon livre quand je n'en avais écrit qu'un tiers, et enfin Claire de Montfaucon. Ce fut un cadeau du ciel que moi, précisément moi, je dusse mener l'enquête sur ces miracles et en proclamer la sainteté aux foules avant que l'Église fît le premier pas. Et tu étais là-bas, Guillaume, et tu pouvais m'aider dans cette entreprise. Et tu n'as pas voulu.
Mais la sainte entreprise à laquelle tu m'invitais, c'était d'envoyer au bûcher Bentivenga, Giacomo et Giovannuccio, dit lentement Guillaume.
Ils offusquaient sa mémoire à elle avec leur perversion, et toi, tu étais inquisiteur.
Et c'est alors précisément que j'ai demandé d'être exempté de cette charge. L'histoire ne me plaisait pas. Je serai franc. Je n'ai pas aimé non plus la façon dont tu as induit Bentivenga à avouer ses erreurs. Tu as fait mine de vouloir entrer dans sa secte, si tant est qu'on puisse parler de secte. Tu lui as dérobé ses secrets et tu l'as fait arrêter.
Mais c'est ainsi qu'on procède contre les ennemis de Christ. C'étaient des hérétiques, c'étaient des pseudo-apôtres. Ils puaient le soufre de Fra Dolcino.
C'étaient les amis de Claire.
Non, Guillaume, n'effleure pas même d'une ombre la mémoire de Claire. Mais dans son groupe circulait, elle croyait que c'était des spirituels. Elle ne soupçonnait pas. Ce fut seulement lors de l'enquête qu'il a été patent que Bentivenga de Gubbio se proclamait apôtre. Et puis qu'avec Giovannuccio de Bevagna, il séduisait les nonnes en leur disant que l'enfer n'existe pas, qu'on peut satisfaire des désirs charnels sans offenser Dieu, qu'on peut recevoir le corps de Christ, Seigneur, pardonne-moi, après avoir couché avec une nonne, que le Seigneur préféra Madeleine à la Vierge Agnès, que ce que le vulgaire appelle démon est Dieu en personne, parce que le démon est la sapience, et que Dieu est précisément sapience. Et ce fut la bienheureuse Claire, après avoir oui ses propos, qui eut cette vision où Dieu même lui dit que cela était les méchants disciples du Spiritus Libertatis.
C'étaient des minorites, l'esprit enflammé par les mêmes visions que celles de Claire, et souvent il n'y a qu'un pas entre vision extatique et frénésie de péché, dit Guillaume.